c'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère au volatile vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Un oiseau ? Un pigeon ?
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les becs.
L'autruche.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Autruche, l'émission qui vous fait sortir la tête du sable. Votre programme est présenté par les étudiants de l'ESJ Pro de Montpellier et de l'université Paul Valéry. Je suis Lou Prestavoine et je suis accompagnée de Élise Lefebvre. Bonjour Élise.
Bonjour Lou et bonjour à tous. Cette semaine, l'autruche sort ses plus belles plumes puisque nous parlons de drague. Le drague, c'est un art à part entière qui joue autour des normes de genre. Par exemple, en exacerbant les codes, une drag queen va performer le féminin et un drag king le masculin. Talons aiguilles, paillettes, moustaches et perruques, le drag est un art queer qui se veut étincelant et impactant. Il prend ses racines dans les années 60 aux États-Unis et ne cesse de grandir en popularité grâce aux émissions télévisées Drag Race, dont les licences se multiplient à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir ce milieu flamboyant, ses actrices aux profils si divers et ses enjeux intrinsèquement politiques.
Au sommaire de cette émission, Mathilde Lingener et Célia Alibeu vont nous entraîner dans un reportage au cœur de la préparation d'un drag king et d'une drag queen avant leur performance, afin de comprendre comment la magie opère. Romain Bois-Robert va nous proposer une chronique sur le drag et ses arts qui remettent en question la place du genre dans notre société, dans un contexte de montée des discours conservateurs. Et enfin, nous avons le privilège de recevoir deux drag queens de Montpellier. Tout d'abord Slasher, drag queen au look gothique et envoûtant, host du drag show La Crypte, et Marie-Lise Larose, drag queen au captivant look baby doll. Bonjour et bienvenue à vous deux.
Bonjour.
Donc nous allons commencer déjà par une question très simple. Comment vous vous êtes retrouvés à faire du drag ?
Si tu veux, tu peux, je te laisse commencer.
Ok. Alors moi, ça fait... Je vais d'abord commencer par la base. J'ai d'abord découvert le drag par Drag Race, mais j'ai découvert ça en 2017 environ. Et depuis 2017, en fait, je rêve de drag, on va dire, depuis le collège, quoi. Donc, j'ai décidé de sauter le pas et d'enfin commencer à faire du drag en novembre dernier. Et voilà, c'est comment je me suis retrouvé à faire cet art.
Moi, personnellement, c'était plus... l'inverse, je pense que j'ai été d'abord attirée par la scène locale avant d'être attirée par la franchise Drag Race. Je suis arrivée à Montpellier pour faire mes études il y a maintenant 7 ans. Et en fait, j'ai pu avoir l'occasion d'assister à mes premiers shows locaux qui m'ont donné envie d'approfondir cette culture queer. Et c'est par cette occasion-là que j'ai commencé à regarder les franchises et par la suite à me lancer moi personnellement.
Ok. Et donc, quels étaient vos premiers shows ? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment c'était ces débuts ?
Moi, personnellement, j'ai commencé avec la scène de la Morveuse du Drag Mini, qui aujourd'hui est la Drag Mini. Et du coup, c'était une scène ouverte où nous, en tant que rêveurs de scène, on pouvait postuler à la scène ouverte et ensuite être sélectionné pour ensuite performer au lieu. Donc, c'était au SAMS aussi. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Tout simplement en faisant juste une scène ouverte un jour et de là, le reste c'est juste de l'histoire et voilà.
Alors, faut savoir que dans la culture drag, la scène ouverte, en fait, c'est une occasion pour des nouveaux artistes de pouvoir performer pour la première fois. Ce sont des éditions qui sont lancées en général par des associations comme Drag Nini ou alors des soirées drag qui sont consacrées à ça. Moi, personnellement, j'ai commencé également par une scène ouverte. Je pense que c'est la façon la plus accessible de pouvoir commencer à découvrir son drag.
D'accord, et du coup, on a compris, il y a vraiment une grande scène drag et de communautaire à Montpellier, donc avec ces scènes ouvertes notamment. Et en fait, comment ça se passe pour se lancer dedans ? Est-ce que vous avez connu quelqu'un ? Vous en avez parlé à quelqu'un avant ?
Ou alors moi, c'est un peu un chemin un peu bizarre, parce que moi, la première fois que je suis montée sur scène, on va dire la vraie première fois, c'était au Zénith de Montpellier, pour la Folle de Rage. Où j'ai été sélectionnée. Voilà, j'ai été sélectionnée. Et donc, je suis montée pour faire un lip-sync du public. Voilà. Et en fait, c'est de là où on m'avait commencé à me repérer. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui étaient déjà installés à Montpellier en tant que drag artiste. Et j'ai pu, par la suite, on m'a parlé du draginique, en plus on m'a parlé de scène ouverte, etc. Et donc c'est de là où j'ai pu, moi, m'instruire et pouvoir commencer à performer à Montpellier.
Moi, j'ai eu un peu de chance également. C'est parce qu'on est venu me proposer de faire du drag. Enfin, c'est une personne qui en faisait que je suivais à l'époque pour ses shows, qui est venue me voir en me disant « Écoute, moi, je pense que tu as quelque chose à montrer sur la scène. » Je venais un peu timidement aux soirées, un peu avec des looks drag pas trop affirmés. Et en fait, je pense que le fait qu'elle m'ait proposé cette opportunité, ça m'a permis vraiment de me lancer pleinement dans cette aventure.
Ok. Juste une question pour rebondir. Marie-Lise, vous parlez de draguigner. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est draguigner à Montpellier ?
Bien sûr. Alors, le draguigner, c'est une association créée par Fox et Mona Biloba qui rassemble les artistes drag de Montpellier. Donc, en fait, le draguigner, c'est tout d'abord, ça partait d'un concept. Je ne sais pas si vous voyez les albums Panini, mais en fait, c'est en fait un album de collection des drag artistes de Montpellier. Donc, en fait, avec des petits stickers, on se balade tous avec notre petit stickers et grâce à ça, l'album draguigner peut être rempli avec nos stickers. Donc c'est parti de là, de base, de rassembler la communauté drag de Montpellier. Puis ensuite, ça a évolué vers une vraie association où il y a des démarchages pour faire des scènes dans les différents lieux, donc par exemple le Sam's, mais il y a aussi d'autres lieux comme par exemple le Arts avec la Arts of Drag et d'autres scènes divertes à Montpellier. Et on a un peu le champ ouvert pour faire ce qu'on veut grâce à l'aide que nous fournit Draguigny.
Oh, c'est cool. Alors, l'émission est tournée sur le drag, mais on voulait aussi évoquer le drag king, le drag queer et les drag créatures. On sait qu'il y a quand même une prédominance au niveau national, mais aussi local du milieu des drag queens. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce que les drag queens sont surreprésentées et le reste un peu moins ?
Je pense que c'est le phénomène Drag Race qui lance ça, qui propose un seul système de représentation, c'est-à-dire des queens qui vont performer la féminité. Du coup, on laisse très peu d'espace encore aux drag créatures, aux drag kings. Il faut voir notamment sur les bookings, en fait, vous voyez rarement des drag kings ou des drag queer créatures, club kids, enfin tout ce qui est en dehors des... du genre, en fait, qui va être moins booké. Je pense que c'est quelque chose qui est rendu moins populaire à la télé et qui, du coup, a des répercussions sur nous, nos représentations locales.
Mmh. Ok, très bien. Eh bien, aussi, si on parle de représentation, on peut aussi parler du fait que le drag, c'est par essence un art qui est queer et donc militant. Est-ce que pour vous, l'art du drag, il est toujours aussi politique qu'à ses débuts ? Et notamment, comment est-ce que ça se manifeste ?
De mon avis, personnellement, je trouve que le drag est moins politique qu'à l'époque, parce que déjà à l'époque, c'était un combat, c'est toujours un combat, mais à l'époque, c'était un combat où vraiment on devait faire en sorte d'exister. En fait, on devait prouver qu'on pouvait exister et qu'on pouvait vivre comme n'importe qui dans la vie. Mais ça s'est de plus en plus, heureusement, ça s'est beaucoup plus moins politique dans un sens parce qu'on a eu plus de droits. Mais ça reste quand même toujours aussi problématique au niveau politique à cause du changement qu'il y a actuellement ou avec la montée de l'extrême droite qui malheureusement ferme des portes à des personnes, je pense notamment aux personnes trans qui font du drag, qui justement se font fermer des portes constamment. Mais du coup aujourd'hui je pense qu'il y a moins l'aspect politique dans le drag. Parce que aussi justement, malheureusement, le drag, ça reste en avancée, ça devient de plus en plus capitaliste. Et en fait, malheureusement, on perd un peu ce côté politique. Même si l'art du drag reste à l'essence politique, il perd de son sens à cause du capitalisme. Et parce que, en fait, aujourd'hui, je prends l'exemple de Drag Race, mais en fait, aujourd'hui, on nous demande de faire des looks et des tenues à prix exorbitant. Si on se renseigne un tout petit peu sur internet avec des témoignages surtout de dragueuses de franchise internationale à US, il y a eu plusieurs cas de queens qui ont fait des prêts et qui surtout ont vidé leur compte en banque pour participer à Drag Race et elles ont terminé deuxième, enfin elles ont été éliminées deuxième, ce qui enlève de la visibilité, etc. Donc malheureusement le drag aujourd'hui est moins politique, il reste politique, mais à cause de cette vision capitaliste de la société, hyper de sa politique.
Oui, c'est un sujet qui est très vaste et très large. Et ce côté, cette démocratisation et cette histoire, c'est un sujet qui a été beaucoup questionné, notamment par rapport à notre chroniqueur, Romain. Bonjour Romain.
Donc, bonjour Lou. Oui, en effet, les événements par rapport à la politique, ils m'ont pas mal inspiré. Donc j'ai commencé par un sondage. Donc qui se souvient déjà de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 ?
Bien sûr,
évidemment.
Donc cette cérémonie d'ouverture a été mise en scène par Thomas Joly. Il y a eu beaucoup de moments marquants. Notamment, il y a eu un tableau où il y a eu différents artistes drag qui se sont présentés dans une performance comme Piche, Nicki Doll, Paloma, avec la DJ Barbara Butch. Et aussi Philippe Catherine en Dionysos, qui était en bleu, enfin voilà. Et il y a une séquence, enfin cette séquence, elle a fait réagir dans le monde entier, et malheureusement pas dans le bon sens. Vague de haine, censure, menaces, réaction de l'extrême droite. Les festivités de cette cérémonie sont transformées en cauchemar avec des plaintes qui ont été déposées pour cyberharcèlement. Et les arguments qui reviennent sont souvent les mêmes. On parle de perversion, de déviance, de prétendue parodie blasphématoire de la scène alors qu'il n'en est rien. Donc des termes qui traduisent quand même un malaise de la société par rapport à un univers qui reste méconnu dans l'ensemble.
Mais dis donc, Jamy, la question du drag ne date pas d'hier pourtant.
Eh oui, Sabine. Le drag, il est ni nouveau ni marginal. Alors déjà, on voyait que dans les rôles de pièces de théâtre antiques, les rôles féminins étaient joués par des hommes. Une pratique qui s'est poursuivie dans les pièces shakespeariennes ou encore au Japon, où les onagata incarnent encore aujourd'hui des figures féminines dans le théâtre kabuki. Et on peut penser à ce que dit le sociologue Erwin Goffman, figure de l'interactionnisme social, qui voyait la société comme une pièce de théâtre. Chacun y joue un rôle, les corps, les attitudes et les comportements, ils s'adaptent à un public qui exige la bienséance. Mais il ne s'agit pas forcément de perruques, de maquillage ou de plumes, c'est avant tout une représentation d'un soi affranchi. Et quand l'être apparaît, il dérange. Pourquoi ? Parce que l'être est complexe, parce qu'il est ambigu, parce qu'il ne se laisse pas enfermer dans des catégories d'hommes et de femmes, mais qu'il y a plus que ça au niveau des genres. On voit la communauté, par exemple, des Hijras, qui revendique depuis des siècles une existence non-binaire, qui s'affranchit des verrouillages occidentaux qui veulent classer les genres et les mœurs. Donc le drag, j'ai l'impression en tout cas, il pousse cette revendication à l'extrême en transgressant les genres, la personnalité et les normes, en exagérant les rôles et en jouant avec l'ambiguïté pour rendre visible ce qu'on cherche à cacher. Donc, alors évidemment, dans la sphère sociale, c'est critiqué. Qui est heureux est trop bruyant. Qui se montre, il prend trop de place. Qui s'exprime, provoque. Qui est libre, est jugé problématique. Donc, on peut penser à ce que dit Georges Bataille, le philosophe qui écrivait dans La part maudite que toute société rejette ce qui la met face à son propre excès. Donc, le drag, pas forcément un excès, il en est plutôt le miroir. Et s'il provoque autant de réactions, c'est peut-être parce qu'il nous oblige à regarder les travers de notre monde.
Eh bien, merci beaucoup Romain. Pour rebondir sur la chronique que nous venons d'entendre, est-ce que vous, Slasher et Marie-Lise, vous avez perçu un changement dans Drag Montpellier Rhin, notamment au fait que le drag est devenu effectivement un peu plus mainstream, notamment par rapport au JO ou à Drag Race? Oui, Slasher.
Je pense que ça s'est déjà ressenti dans le public. Je pense qu'il y a eu une expansion du public montpelliérain pour le drag, notamment sur les viewing parties de Drag Race. Les viewing parties, c'est en fait des soirées que proposent les drags pour pouvoir regarder en fait tous ensemble, un peu comme un match de foot dans un bar, le nouvel épisode de Drag Race qui est sorti. Et en fait, à ce moment-là, donc, la soirée se divise en deux. On a à la fois le visionnage de l'épisode et ensuite les performances des drags locales, ce qui permet en fait à la personne qui participe à la soirée de pouvoir à la fois regarder la franchise et pouvoir à la fois également découvrir le drag local qui l'entoure.
J'ai pas plus à ajouter. C'est vrai que tout ce que Slasher a dit, c'est correct. C'est vraiment surtout dans le public où il y a eu vraiment une expansion. Moi, je pense surtout Elle a vu une partie de la dernière saison de Drag Race, Drag Race France All Stars, où il y a eu une viewing d'une des candidates, Peach, et Vespi, qui était dans la saison 2 de Drag Race, qui a amené beaucoup de monde qu'on ne voyait pas aux drag shows locaux de base. Enfin, moi, j'allais au Vespi, du coup, et je voyais vraiment la différence du public grâce, justement, à avoir mis quelqu'un de la télé qui vient à Montpellier pour faire une viewing. Ça a vraiment aidé à un peu débloquer le public de Montpellier et à l'agrandir.
Ok, je comprends. On voulait aussi aborder un sujet qui est important au vu du contexte politique actuel. Dans un climat où la montée des idées conservatrices et d'extrême droite est en pleine expansion en France, est-ce que vous avez des craintes, vous, pour la pérennité de l'art drag ou même de l'art queer en général ? Marie-Lise, peut-être, pour commencer.
Honnêtement, oui. J'ai énormément peur pour le drag, mais aussi pour les arts en général. Car on reste tous précaires, que ce soit le drag, les artistes en général. Et avec cette montée de l'extrême droite, on ne va pas réussir à perdurer, malheureusement. On va retourner dans les caves, on va retourner comme c'était avant. On va être dans les caves, on va être caché, on va devoir faire beaucoup plus attention dans la rue. On fait déjà attention, bien sûr, mais on va devoir faire preuve de beaucoup plus de vigilance, notamment avec la montée aussi de groupes d'extrême droite encore. Dans la rue, on voit de plus en plus des vidéos circuler sur Internet. Notamment, je me souviens, il y a un mois ou deux, qu'un groupe d'extrême droite avait repeint un trottoir destiné aux personnes queer de la ville, qui était juste peint de drapeaux LGBT, ou même à la gare Montpellier Sud de France, où il y avait le drapeau LGBT qui a aussi été malheureusement terni.
Est-ce que vous, Slasher, vous avez vu une évolution plus grande vu que ça fait plus longtemps que vous faites du drag?
Alors je pense que la montée du fascisme n'est pas depuis hier, et en fait ça se voit que le domaine de la culture est menacé depuis des années déjà. Ça devient de plus en plus compliqué déjà de trouver des lieux qui veulent nous accueillir, et en fait c'est une lutte qui s'ajoute au fait qu'on va disparaître de l'espace public peu à peu et revenir à des bases, comme Marie-Lise disait, beaucoup plus underground, en fait, contrôlé par la police, etc. Enfin, il y a déjà beaucoup d'histoires où il y a des descentes de police qui se font, des altercations sur les personnes queer. Enfin, ça devient vraiment un milieu qui arrive vers sa fin, en tout cas pour l'instant, quoi.
Vous avez vraiment un sentiment de crainte. En plus, vous dites que vous êtes des personnes précaires. On se demandait notamment à quel point, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, que ça coûte cher de faire du drag, visiblement autant au sens littéral que figuré. Est-ce que vous arrivez à en vivre du drag, Marie-Lise?
Alors moi, je n'en vis absolument pas, bien sûr. Car déjà, j'ai commencé très récemment, comme j'ai dit, en novembre dernier. Mais il y a même très peu de drag en France qui arrivent à en vivre, de ma connaissance. Même souvent, celle de Drag Race n'arrive pas à en vivre. Et en fait, c'est un problème qui perdure à cause justement de... le drag, ça coûte cher. Le public demande à avoir des nouvelles tenues tout le temps, des nouvelles perruques tout le temps, etc. Et malheureusement, au fur et à mesure du temps, on ne va pas pouvoir tenir ce rythme. Donc malheureusement, moi aujourd'hui, je n'arrive pas à en vivre. Ça serait génial si je pouvais arriver à en vivre un jour. Mais ça arrivera sûrement pas, ou alors avec beaucoup, beaucoup d'années d'expérience. Et je parle de moins 15 à 20 ans d'expérience dans le drag.
Écoutez, moi, c'est la première année de test, là. Donc je ne peux pas encore vous donner une réponse définitive, mais... moi, j'ai décidé de me lancer pleinement depuis septembre. C'est une décision qui a été un très grand risque pour moi, puisque j'avais une situation employée dans une entreprise. Et en fait, j'ai décidé de vraiment pouvoir pleinement consacrer mon plein temps à mon art et à pouvoir le développer pour pouvoir espérer en vivre. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis juste que je pense qu'il faut des bases pour pouvoir vivre du drag, notamment ne pas être précaire. Je pense que quand on a déjà une petite rentrée d'argent. Je pense que c'est déjà beaucoup plus facile de pouvoir développer son drag quand on est une personne précaire. Je pense que c'est toute une autre histoire. Et puis oui, à Montpellier, c'est toujours le même problème. Est-ce que on a les mêmes moyens de booking qu'une drag qui va se trouver à Paris, par exemple? Enfin, c'est très compliqué de pouvoir vivre aisément du drag, en tout cas.
Et notamment dans votre vie autour du drag, donc que ça soit vraiment d'en faire de votre métier, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez tenu vos familles au courant que vous faites du drag?
Oui, alors moi je les ai prévenus dans les premiers mois, je dirais, de mon activité. Je pense que ça a suscité beaucoup de questions au début parce que, évidemment, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Mais j'ai fait ça un peu en douceur, dans le sens je voulais vraiment leur montrer. Pour moi, en fait, mon devoir auprès de ma famille, c'était en fait de déconstruire un peu tous les préjugés qu'on pouvait avoir sur le drag. Non, maman, je ne fais pas de striptease, je fais juste du drag, voilà. Et puis, voilà, les déconstruire un peu leur a priori sur ça, donner une autre vision, peut-être un peu plus moderne, du drag, en tout cas sur ça, oui.
Et vous, Marie-Lise ?
Alors moi, c'est un peu drôle, parce que moi, aujourd'hui, je ne parle qu'à mon père. Et donc déjà, on peut déjà imaginer qu'un enfant queer, c'est pas forcément proche du père, c'est plus proche de la mère. Mais du coup, moi, à ma première sortie en drag, j'ai envoyé 3 photos. J'ai dit, regarde ce que j'ai fait, regarde comment je suis sorti pour la Pride. Et il n'y a pas eu forcément de surprise parce qu'il savait déjà que j'étais fan de drag, que je regardais Drag Race déjà dans ma chambre. Mais après, quand il a un peu plus appris que je m'étais vraiment lancé, que je commençais à faire des performances, etc., ça n'a pas été une surprise pour lui et il a tout de suite su. Et même un jour, il va venir me voir pour un show. Il devait venir normalement ce vendredi prochain, mais bon, il ne peut pas. Je lui en tiens pas à rigueur, mais quand même.
On a l'impression pour vous, Marie, c'est un peu plus une libération, on dirait, de s'être assumée. Et on se questionnait, nous, quand on a réfléchi à l'émission, de comment on gère 2 personnes dans notre vie, dans une seule vie, à quel point votre vous civil a influencé votre drag et comment votre drag a influencé votre vous civil. Est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression d'avoir 2 personnes différentes dans un même corps? Allez-y, Marie-Lise.
Alors moi, personnellement, je savais toujours qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose en moi qui était plus féminin. Et en fait, une fois que j'ai découvert, moi, avec Drag Race, une fois que j'ai découvert cet univers, en fait, je me suis dit, c'est juste ça. C'est une personnalité extérieure qui est là pour apporter la joie, pour apporter un moment de pause dans la vie du quotidien. Et en fait, c'est de là qu'elle existe, en fait, Marie-Lise. C'est depuis là qu'elle existe. Et aujourd'hui, je ne me vois pas perdue entre mon moi civil et mon moi en personnage. Au contraire, mon personnage drag est une extension de moi. Et dans tous les cas, ça reste moi à la fin de la journée. Aujourd'hui, je suis très content d'être en civil, mais aussi d'être en drag une fois de temps en temps pour m'amuser un petit peu. Et voilà.
Et vous, Slasher, comment vous percevez ce mélange, ce mix?
Alors justement, je trouve que le terme « extension » de moi, c'est quelque chose qui résume bien la situation. Moi, j'ai rarement vu distinct 2 personnes différentes sur le domaine du drag. Je dirais plus, oui, que c'est une extension en fait, de qui je suis. Le drag m'a permis de découvrir ma féminité, en faire une force et de pouvoir comprendre mon identité au-delà du drag, de mettre un mot sur qui je suis, notamment sur la transidentité, et de comprendre que ça va au-delà de perruques et de maquillage et de talons. Voilà, pour moi, ça a été en fait une façon de pouvoir me reconnecter à moi-même.
Okay. À ce sujet d'une sorte de reconnexion, effectivement, grâce au drag, Célia et Mathilde ont suivi la transformation de Civil en drag de la drag queen Miss Victoire et du drag queen Robin Banks à l'occasion d'un show.
Donc du coup, là, on va recoiffer un petit peu les petits cheveux pour pas avoir l'air trop folle.
On vous emmène dans les coulisses du drag montpelliérain, derrière les strass et les perruques. On a rencontré une drag queen, Miss Victoire, et un drag king, Robin Banks. Direction leur préparation.
Robin Banks, du coup ça fait 10 mois qu'il existe, c'est moi, mais version plus extravagant, donc je me mets souvent nu sur scène. Je fais pas mal de perfs engagés aussi politiquement ou socialement, enfin je défends des causes qui me tiennent à cœur, comme ce soir par exemple. Je fais tout le contour, après avoir fait le teint, du coup, ouais, je fais tout le contouring pour voilà, vraiment tracer les traits masculins. C'est un peu la base des kings, quoi. Le truc que tout le monde fait, c'est vraiment les joues et la mâchoire. Alors, j'ai commencé par ma joue, où en gros, je fais un gros trait que j'estompe après avec un pinceau. Et je fais pareil avec la mâchoire, où je dessine sous la mâchoire. Avec le front, pareil, je fais deux traits de chaque côté au niveau vers les tempes. Et après, je fais les yeux pour du coup creuser le regard. Et vraiment, voilà, c'est vraiment les traits masculins, ou avoir l'air sérieux, en colère, ou je sais pas quoi. Alors là, j'ai une sorte de fard gras que je mets par-dessus mes sourcils pour les foncer plus et pour les tracer mieux aussi. Les yeux, c'est toujours la partie galère pour moi parce que je sais jamais quoi faire. Et du coup, je fais le liner noir, je fais un trait blanc dessous et par-dessus, j'ai mis du rose et du bleu. Et pour fondre les deux, j'ai mis un trait de violet. Je vais faire une performance qui parle de la transphobie sur l'appli Grindr. Donc sur l'expérience que j'ai vécue. Enfin, c'est important pour moi de parler de ces choses-là. On est sur scène pour montrer, pour divertir les gens. Mais s'il y a un message derrière, c'est encore mieux. On va dire impliqué dans l'engagement tout en étant très sexy aussi.
Ah, j'ai un bad boy. Oui.
Merci Robin, et sans plus attendre, on rejoint Miss Victoire. On pousse la porte du O'Sullivan pour son changement de tenue parce qu'elle hoste la soirée, la chippie spéciale Beyoncé.
Miss Victoire, c'est un peu une énergie de bad bitch parce que c'est vraiment la diva. Là, je joste la soirée, la présentatrice. Donc je joste, je fais les shows. Et voilà, au charbon quoi. On est là, on doit tout faire. J'enlève mes pattes. J'enlève tout en fait. On recommence à zéro. Tu peux m'enlever mon body en dessous.
C'est pas fini.
On a un petit peu de brume pailletée. On va se maquiller un peu le torse pour cacher notre repousse de poils. Donc on va prendre un pinceau. Et vous avez qu'à imaginer, ouais, un trench en jean patchwork avec que des carrés de jeans différents, avec une grande traîne et des étoiles en strass dessus, parce que victoire sans strass, c'est pas victoire en fait. En dessous, j'ai mis un juste au corps avec des seins en mousse pour pouvoir avoir une poitrine. Attends, non mais parce que j'ai pas envie que ça me fasse des gros bourrelets, tu vois, comme ça. Ça, c'est vraiment pas vendeur. C'est très inconfortable à porter. C'est censé être une star, belle, en plus être une femme. C'est encore pire, t'es censé être une drag queen, t'es censé être au top. T'es censé être une exagération, t'es censé être encore plus belle que toutes les femmes. Le tucking, je suis une personne qui fait beaucoup pipi.
Pause, c'est quoi le tucking? Alors, le tucking, c'est l'art de cacher son... Enfin, pas besoin de vous faire un dessin. Son sexe, quoi. Ouais.
Parce que je bois beaucoup. Donc j'ai une culotte spéciale qui te compresse le paquet là où il faut pour pas qu'on le voit. Là sur la petite musique, on va rentrer comme ça, comme une grande star. On va traverser la foule qui vont être là. On va monter sur la scène.
Hello la chippie.
Et puis ensuite, je sortirai ma mitraillette à étincelles.
Merci aux deux drags qui ont accepté de nous ouvrir la porte de leur loge pour assister à leur transformation.
Je veux ton amour et je veux ta revanche. Je veux ton amour.
Merci beaucoup Célia et Mathilde pour ce reportage, on avait l'impression d'être avec vous. Alors, nous approchons de la fin de cette émission, mais avant de se dire au revoir, nous avons une dernière question pour vous, Slasher et Marie-Lise. Quel est votre but ultime en tant que drague? Donc j'imagine que vous avez deux buts différents.
Oui, je pense.
Oui, je pense oui aussi.
Bon, vas-y, qui veut commencer?
Je commence.
Vas-y, Marie-Lise.
Alors moi, mon but ultime pour le drague, bah, déjà, c'est d'en vivre en vrai. En vrai, c'est le rêve un peu de pouvoir en vivre librement, ne pas soucier du moi, pouvoir faire mes propres, avoir mon propre show aussi, mon propre show hebdomadaire. Enfin, vraiment, le rêve ultime, quoi, avoir son propre peut-être cabaret, avoir sa propre soirée. Enfin, les limites ne sont pas quand on fait du drag. Il y a aucune limite. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et moi, aujourd'hui. Ce que je rêve, c'est vraiment de pouvoir faire ce que je veux du drag. Et donc, ma soirée, mon lieu, ne pas me soucier du lendemain, avoir, comment on s'appelle déjà ? Comment on s'appelle déjà ? C'est l'aide pour les artistes. J'ai oublié comment ça s'appelle. L'intermittence, voilà. Oui, okay. L'intermittence, voilà. Avoir l'intermittence avec le drag, ce serait génial aussi. Ça pourrait soulager, on va dire.
Et vous, Slasher, vu que vous êtes déjà, entre guillemets, autonome et que vous êtes déjà host aussi d'un drag show, quel est pour vous le but ultime maintenant, la prochaine étape ?
Alors, je pense déjà que ce sera continuer à perpétrer ce drag show qu'est la crypte, hosté avec mes deux co-hôtesses, Carmen Lolita et Kate Amari. Continuer d'offrir un espace safe pour la jeunesse queer, pouvoir continuer à représenter des corps trans sur scène qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs et bien sûr pouvoir en vivre aisément.
Eh bien, merci beaucoup Slasher et Marie-Lise Larose pour vos réponses et pour le temps que vous nous avez accordé.
Merci beaucoup. À vous.
On vous souhaite vraiment le meilleur pour vos carrières et que tous vos rêves se réalisent. Donc, merci également à Mathilde, Célia et Romain et à toute l'équipe de Divergence. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs. C'était Élisée Lou, étudiante de l'UAJ Pro et de Paul Valéry. Nous vous retrouverons prochainement sur Divergence.
C'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère aux volatiles vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Un oiseau ? Un bijou ?
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Ah ! C'est embêtant, dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.